Christophe voulait prier pour moi et simplement vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à préparer cet enseignement. J'avais choisi de le faire sur la prière et différentes possibilités qu'on a de prier. Et puis ça venait pas et c'était compliqué. Et j'ai fait une sorte de grand melting pot avec des choses diverses. Et chacun peut venir chercher dans cet enseignement ce qu'il veut. Hein. Donc, mardi dernier, on a vu au cours Alpha ce qu'est la prière et comment prier. Et je pense que ce thème n'est jamais épuisé. Donc, on va continuer un petit peu aujourd'hui et dans quelques semaines, de quelques mois, vous en entendrez encore parler. Et pour moi, à côté de la lecture de la parole et à côté de la prise du pain et du vin, il y a la prière. La prière qui parfois est partenaire avec Dieu, d'autres fois une intercession, parfois une attente, parfois comme un temps de résistance. Et donc on va partager quelques petites choses et je vous encourage à laisser vraiment le Seigneur vous rejoindre. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans les petits textes des diaconesses de Reuilly. En fait, pour nous, chrétiens du XXIe siècle, entendre ce chant, en sachant que ces sœurs se mettent à l'écart, vraiment à l'écart pour prier. Non pas pour prier en solitaire ou pour prier en égoïste, mais vraiment pour porter le monde. Et viennent vers eux, mais des gens et des gens et des gens et des gens qui leur confient leurs soucis, leurs besoins, leurs difficultés. Et ce texte dit « Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. » Je le répète, parfois, à certains moments, dégageons-nous dans la mesure où nous nous engageons sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui, à tes frères et sœurs. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de soi-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard vide sur les événements, il nous faut fuir pour nous tenir tranquilles et rassemblés devant le maître de tout. J'aime cette prière. J'aime cette interpellation. Donc, dans notre prière, on est amené à quitter le monde de l'immédiat, des besoins qui nous entourent, pour chercher la perle de grand prix. Et cette perle de grand prix, c'est la présence de notre Seigneur. Parfois, on étouffe dans nos emplois du temps tellement surchargés. Et on oublie que l'essentiel est ailleurs. Ailleurs, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour prier, il nous faut vraiment un espace libre, un temps dégagé où l'impossible s'ouvre sur l'espérance. Ma première partie, je vais la consacrer à la prière de selon Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 5, juste après la prière du Notre Père, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un d'entre vous a un ami qui vient chez lui au milieu de la nuit et lui dit « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis. Même s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, il se lèvera parce que l'autre n'arrêtera pas de tambouriner à la porte. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Cet ami qui se laisse fléchir, on peut facilement imaginer que c'est Dieu dans le ciel. Dieu se laisse fléchir par nos prières. Or, parfois, on se dit qu'il a d'autres chats fouettés qui tardent, qui ne s'occupent pas de nous parce qu'on est petite puce dans l'univers et qu'on... c'est pas important par rapport aux grands besoins de ce monde. Et pourtant, Dieu veille. Et puis cet homme qui inlassablement frappe à la porte sans crainte de l'importuner, frappe avec ses prières incessantes, « Seigneur, agis, Seigneur, viens, Seigneur, on a besoin de toi. » Et cela jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent et qu'on ait notre réponse à notre prière. Pas toujours la réponse qu'on attend, mais notre réponse, parce qu'on en a besoin pour continuer à vivre. Moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut qu'on soit honnête. Parfois, quand on prie et qu'on ne reçoit pas de réponse, on a du mal. Parfois, ça dure peut-être pas longtemps, mais parfois on a du mal à voir le cœur du Père dans cet ami qui se fait prier et qui ne réagit pas. Alors on peut peut-être comprendre l'impatience d'Abraham. 75 ans, il reçoit une promesse. « Je te donnerai un fils. » Oups. Puis les années passent, et les années passent, et les années passent. Et pas de fils. Alors Sarah se dit « Moi aussi je vieillis, c'est fini, etc. » Donc elle lui donne Agar, sa servante, et Ismaël vient. Mais Dieu revient avec sa promesse. Abraham, Abraham, je t'ai promis un fils et je vais te le donner. Même si tu ne comprends pas, même, je vais te donner un fils. Parce que de lui viendra une postérité. Et ce sont les fils d'Abraham, ce sont les fils de la foi par Isaac. Mais c'est aussi nous aujourd'hui. Et nous marchons sur les traces d'Abraham. Nous sommes les enfants, les fils et les filles d'Abraham. Et moi, ça me fait tout drôle. Parce qu'en partant dans quelques jours en Israël, je me dis, je vais marcher sur les pas d'Abraham. Et je vais surtout marcher sur les pas de Jésus. Et il y a des moments où je me dirais, tiens, là, je fais un pas et c'est le pas de mon Seigneur. Ou c'est le pas de mon papa, la foi. Abraham. Et c'est tellement merveilleux. Moi, ça me réjouit. Hein? Et puis, Jésus continue en disant, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Une phrase où il n'y a pas de mots inutiles. Que des verbes. Que des verbes. Et sur ces trois verbes, trois verbes d'action qui sont à notre actif. Demander, et ça, pour demander, il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il faut manifester quelque chose. Chercher, imaginez que vous avez perdu quelque chose dans la maison. Hier, Christophe avait perdu son tensiomètre, on cherchait partout, fébrilement, on l'a trouvé ce matin. Frapper. Il faut de la force pour frapper. Moi qui ai mal aux mains, je dis qu'il faut de la force pour frapper. Et il est dit, qui demande, il lui sera donné. Qui cherche, va trouver. Qui frappe, on lui ouvrira. Et ça, c'est, je pense, dans ce moment-là, on voit que quand on prie, on entre dans une action et qui actionne le bras de Dieu. Et c'est particulier, mais pour moi c'est important. Quand je prie, quelque part, que je sois dans la chambre ou que je sois avec des frères et sœurs, comme dans un jeûne et prière ou comme dans une réunion de prière, j'actionne au bras de Dieu. Et il n'y a aucun orgueil à avoir là. On a cette possibilité de faire agir Dieu. Donc en fait, moi je suis partie un peu avec l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorre. Et dans ces versets, on voit d'abord que peu de temps avant, il y a les deux anges de l'Éternel qui apparaissent à Abraham aux chênes de Mamré. Et puis Abraham leur prépare un repas, puis vraiment c'est une hospitalité toute importante, très, très orientale, avec on tue le veau gras, on fait vraiment un repas pour les anges de l'Éternel. Et là, le Seigneur indique à Abraham qu'il va faire circoncire, qu'il doit se faire circoncire, lui et tous les enfants du peuple d'Israël. Donc là, c'est la circoncision. Et après, promesse renouvelée, alors qu'Abraham a 99 ans, Ismaël qui se fait circoncire en a 13, promesse renouvelée qu'Abraham va avoir un fils. 75 ans, 99 ans. C'est long parfois. Et j'imagine qu'Abraham, pendant toutes ces années, il est venu taper à la porte de l'Éternel et lui a rappelé sa promesse. Et même quand il a douté, après il revenait. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de tellement important dans la persévérance, dans la prière. Et Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, Abraham. Je vais le bénir et je le rendrai fécond. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et on voit cette nation aujourd'hui. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah va te donner l'année prochaine. Puis après, pour moi, ce qui est aussi important, c'est que l'ange, le Seigneur, l'ange de l'Éternel, va pointer l'incrédulité de Sarah. Et dans nos prières, dans nos attentes, dans ces temps d'attente, on peut avoir de l'incrédulité. Et c'est important de reconnaître, ouais, j'ai douté. J'ai douté qu'il allait faire quelque chose, j'ai douté de sa présence, j'ai douté. Et en même temps, quand on le reconnaît, il y a déjà quelque chose qui se met en route pour nous. Et après, on a ce merveilleux partage surprenant entre Abraham et l'Éternel. Et l'Éternel qui dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et il ajoute, ce qu'on reproche à Sodome et à Gomorre est si énorme et leur péché est si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si aujourd'hui le Seigneur nous disait, vais-je cacher à chacun d'entre nous ici présents, vais-je cacher ce que je vais faire pour Wavrin, pour Source de Vie, pour telle famille, pour le quartier des Roseaux, pour telle situation tellement comme un imbroglio, on ne comprend rien, vais-je cacher ce que je vais faire? J'imagine que souvent, on met en avant notre humilité en disant « Oh non, le Seigneur peut même dire des choses aussi importantes, etc. » Mais derrière notre humilité se cache souvent notre incrédulité, notre manque de foi. Et on a du mal à imaginer telle chose, que Dieu vienne et nous parle du monde qui nous entoure. chose que je pense et que je crois réellement, c'est qu'aujourd'hui encore, dans notre 21e siècle, Dieu cherche des cœurs pour y déposer ses fardeaux. Dieu cherche des cœurs, comme il a trouvé en Abraham. Abraham voulait sauver Sodome et Gomorre. En particulier, il voulait sauver son neveu Lot, qui avait choisi d'aller s'installer dans le monde du péché. Et donc Dieu veut, recherche de tout cœur, des cœurs pour y déposer ses fardeaux. Parfois c'est lourd le fardeau de Dieu. C'est lourd. Et j'ose ajouter, il recherche des cœurs et non pas des grosses têtes. Cherche des cœurs. Et Abraham qui ose s'approcher de l'Éternel et qui lui dit, vous imaginez l'intimité entre Abraham et l'Éternel, il dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Et après, dans Genèse 18, on voit, alors c'est complètement surprenant, la prière que j'ai appelée la prière marchandage entre Abraham et Dieu. Seigneur, peut-être qu'il y en a 50 de justes dans cette ville. 50 pour 50, tu voudrais tuer 100 000 personnes ou 20 000 ou 10 000? 50, Seigneur. Et l'Éternel dit, pour les 50 justes, je ne détruirai pas Sodome. Et vous savez combien ça va, jusqu'où ça va aller ce marchandage? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Et là, Abraham se dit, quand même, s'il n'y a pas 10 justes dans Sodome, je ne comprends plus rien. Et malheureusement, l'Éternel ne trouvera pas les 10 justes et Sodome sera détruit et Lot sera enlevé. Mais sa femme qui s'est retournée, elle n'a pas participé à la promesse. Moi, ce marchandage, d'une certaine manière, il me gêne. Parce que on en parlait avec Christophe, se dire, mais avec Dieu, est-ce qu'on marchande? Est-ce qu'on demande des choses, et encore plus ou un peu moins, etc. Et en même temps, si notre prière est faite de ces demandes répétées, et où on est de plus en plus précis, et où on peut vraiment vouloir faire fléchir le cœur de Dieu. Pas pour notre orgueil, pas pour notre bien personnel et acquérir des richesses qui vont s'en aller en poussière quand on s'en ira, mais vraiment pour le royaume. On peut marchander pour le royaume. On peut réclamer des gens pour le royaume. On peut réclamer des villes. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que c'était une de nos villes, comme Paris, Marseille, qui est en train de s'enflammer à cause de toutes les cochonneries qu'on y voit, de mafia, de vente de drogue, de règlement de compte, ou Lyon? Si le Seigneur nous mettait à cœur ces villes ou Lille, et que là on est à demander au Seigneur, mais Seigneur, 50 justes, 50 croyants, 50 chrétiens, et je réduis pas ces villes en miettes. Alors c'est vrai que on a l'impression que maintenant le Seigneur fait plus ce genre de choses. Oui, et en même temps, il y a quand même des fois où son coup près tombe. Et où on ne comprend pas. Donc notre combat dans la prière, pour moi, me paraît excessivement important. Et puis, la prière est pour moi une attente, une espérance. Et l'attente fait partie intégrante de la démarche de prière. Elle en est comme la partie cachée. Comme pour un iceberg. pour porter du fruit. J'ai trouvé ça quelque part. Pour porter du fruit, l'attente doit se désaltérer au ruisseau de l'espérance. On trouve des oasis dans nos temps d'attente, des petits signes, des clins d'œil de l'Éternel. Alors la prière devient une démarche partenaire. Parfois c'est un cœur à cœur, mais de temps en temps, ça peut devenir un corps à corps. Et on s'accroche en disant, Seigneur, je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies répondu. Je voudrais vous lire maintenant quelque chose qui m'a souvent marqué. Alors, j'ai rencontré une fois Floyd McClung, un des responsables de Jeunesse en Mission, et il a écrit un petit livre. Alors, c'était pas du tout son style, parce qu'il était hyper branché, évangélisation, grand... Voilà. Et puis, il nous fait un livre sur le cœur du Père. Et en plein milieu de ce livre, cette histoire. Ça se passe en Thaïlande. Sawat avait déshonoré sa famille et sali le nom de son père. Il avait quitté son village pour échapper à l'ennui et se mettre en quête de sensations fortes, comme nos jeunes aujourd'hui. En réussissant dans un style de vie complètement déréglé, il avait même acquis une certaine popularité. En fait, il était devenu proxénète et mettait à la disposition des touristes européens et américains, des jeunes filles, voire des petites filles qui avaient à peine 12 ans. C'est une histoire vraie. Hein. Dans ce monde de la prostitution, Sawad fut vite pris dans un engrenage dont le courant était bien trop rapide pour lui. Il se mit aussi à vendre de l'opium et devient un véritable homme d'affaires. C'était des bonnes affaires. Mais peu à peu, il perd pied. Son univers s'écroule à la suite d'une série de malchances. On lui vole ses biens, il est arrêté. Et dans le milieu, le bruit court qu'il était un espion de la police. Il finit dans un taudis près de la décharge municipale. Et là, il se met à penser. Il se met à penser à sa famille, et plus particulièrement à son père. Un humble chrétien, dans un tout petit village à la frontière malaise. Il se souvient alors des paroles d'adieu de son père. « Sawat, je t'attends. » Et il se demande si son père l'attend toujours, après tout ce qu'il a fait. Finalement, il se décide à écrire « Cher papa, je voudrais rentrer, mais je ne sais pas si tu me recevras après tout ce que j'ai fait. Père, j'ai beaucoup péché, pardonne-moi. Je serai lundi dans le train du matin qui passe dans notre village. Si tu m'attends toujours, accroche s'il te plaît un morceau de tissu blanc sur l'une des branches de l'arbre devant la maison. » Pendant tout le trajet, Sawat prie. En arrivant près du village, il explique la situation à un de ses voisins. Dans son compartiment, il lui demande « Monsieur, je n'ai pas le courage de regarder. Pouvez-vous le faire à ma place ? La voyez-vous, ma maison ? C'est la seule avec un arbre devant. » Puis il incline la tête sur ses genoux et se met à prier. Le voyageur le secoue bientôt et lui dit « Jeune homme, regardez, votre père ne s'est pas contenté d'accrocher un seul morceau de tissu. Regardez, l'arbre en est couvert. » Sawat a du mal à en croire ses yeux. Les branches étaient pleines de petits carrés blancs. Et dans la cour, son père allait de long en large en agitant joyeusement un grand carré de tissu blanc. Puis il se met à courir en trébuchant le long du train. Quand enfin celui-ci s'arrête, il se jette au cou de son fils. Il l'embrasse avec des larmes de joie et s'écrie « Je t'attendais ». Fils, je t'attendais. Ça nous rappelle la parabole du fils prodigue, bien sûr. Et c'est ce que notre Père Céleste fait avec chaque homme et chaque femme. Il attend sur le quai que nous descendions enfin notre train à grande vitesse pour nous dire « Je t'attendais, fils, je t'attends encore peut-être si je ne suis pas descendu de mon train à grande vitesse. » Puis j'ai terminé. Alors c'est des choses qui m'ont parlé au sujet de la prière tous ces derniers temps. Je voudrais terminer avec une histoire toute simple qui nous parle d'une présence. Comme les disciples, nous disons parfois « je ne sais pas comment prier ». Cette histoire a lieu au XIXe siècle en Angleterre, dans une église anglicane. Assez soucieux, un pasteur anglais dit un soir au concierge de son église, « John, je suis tracassé par le fait que chaque jour vers midi, depuis des semaines, un pauvre vieux bonhomme aux habits râpés entre dans l'église. Il se dirige vers le chœur où il ne reste que quelques minutes. Cela me paraît mystérieux. Je m'inquiète. Sachant qu'il y a des objets de valeur dans ce cœur, pourrais-tu voir la question d'un peu plus près ? Le lendemain et les jours suivants, John vit qu'en effet, ce pauvre visiteur, sur le coup de midi, entrait pour un court moment, puis s'en allait sans hâte. Un jour, il l'accosta. « Dis donc, l'ami, pourquoi venez-vous ainsi à l'église ?»« Je viens prier. » dit tranquillement le vieillard. Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous allez seulement jusqu'au fond de l'autel et puis vous repartez. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est exact, répondit le vieil homme. Vous voyez, moi je ne sais pas faire de grandes prières. Pourtant, je viens chaque jour à midi. Et je lui dis tout simplement, Jésus, c'est Simon. Puis j'attends une minute et je m'en retourne. C'est une petite prière, mais je crois qu'il m'entend. Peu après, le vieux Simon est renversé par un camion, puis il est transporté à l'hôpital, où il va rester jusqu'à la guérison de sa jambe. Depuis longtemps, la salle où il est soigné donne beaucoup de peine à l'infirmière responsable. Plusieurs malades y sont grincheux, d'autres murmurent du matin au soir. « C'est pas assez bon, c'est froid, c'est ceci, c'est cela. L'infirmière vient pas assez vite. » Et peu de temps après, les choses se mettent à changer. Les murmures sont moins amers, puis ils cèdent la place au contentement. Un jour, l'infirmière, entendant un joyeux éclat de voix, demande « Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Vous êtes maintenant des malades pleins de bonne humeur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où s'en sont allées vos plaintes et vos gémissements qui me fatiguaient tant ?» L'un d'eux répond « Oh, madame, c'est le vieux Simon. Il est toujours si heureux sans jamais se plaindre, alors qu'il souffre encore beaucoup. Alors il nous a fait honte. » L'infirmière se dirige vers le lit de Simon et lui demande « Alors Simon, vous avez fait du bon travail au milieu de nous. Vous faites tellement envie à tous, on dit que vous êtes toujours joyeux. Comment ne serais-je pas ? Répond Simon. Vous savez, c'est grâce à mon visiteur. Il me rend heureux un jour après l'autre. Votre visiteur ? Demande l'infirmière surprise. Mais quand vient-il donc ? Tous les jours à midi, répond le vieux monsieur d'un air joyeux. Il se tient là, au pied de mon lit. Il me regarde et il me dit « Simon, c'est Jésus. » Voilà, j'arrête ici. Ce sont des choses très diverses. Choisissez ce que le Seigneur a posé sur votre cœur pendant ce temps. Seigneur Jésus, je veux te louer parce que dans ce désir que tu as de voir avancer notre monde, tu nous veux partenaires à tes pieds dans l'action. Seigneur Jésus, aide-nous à être simplement ce que tu attends de nous. Parfois comme Abraham, parfois comme Simon, parfois comme Sawad qui revient et qui te demande pardon, parfois comme le père qui attend le retour de l'enfant prodigue, ce fils qui est allé se perdre et pour qui on prie depuis tellement longtemps. Seigneur, aide-nous à entrer dans ce plan que tu as prévu pour l'humanité. Tu as racheté par ta mort à la croix toute chose. Et tu nous fais partenaire de la suite. Parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et cette promesse que tu avais faite à Abraham, tu la redis en Jésus. Tu désires te faire connaître au monde entier. Merci Jésus. Merci.